Et on retrouve Thomas Cluzel pour le journal de la rédaction. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
Tandis que la trêve hivernale prend fin ce week-end, nombre d'associations de défense des locataires expriment leur inquiétude face à la multiplication aujourd'hui des expulsions.
Oui, une situation d'autant plus compliquée, on le verra, avec l'explosion des locations touristiques. L'inflation a ralenti ce mois-ci à plus de 2,3%. Tous les postes sont concernés par cette accalmie. Mais pour combien de temps encore la décélération pourrait être de courte durée? Après les menaces d'attentats qui ont ciblé de nombreux collèges et lycées ces derniers jours, la ministre de l'Éducation a demandé hier soir la suspension de la messagerie des espaces numériques des établissements scolaires. On en parlera avec notre invité aujourd'hui, Loïc Guézo, vice-président de l'Association de promotion des bonnes pratiques en cybersécurité. L'actualité à l'étranger, ce sont tout d'abord ces frappes israéliennes sur la région d'Alep ce matin qui ont fait au moins 42 morts, soit le bilan le plus lourd pour l'armée syrienne depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Enfin, on se rendra à Moscou où depuis un an, jour pour jour, Evan Gershkovitch, journaliste américain Wall Street Journal, est incarcéré pour espionnage sans que le Kremlin n'évoque pour l'instant le moindre scénario possible pour la suite, procès ou échange de prisonniers. Insomnie, honte, difficultés psychologiques, problèmes de santé, instabilité familiale, la liste des traumatismes et plus encore des séquelles qui affectent la vie des personnes expulsées de leur logement est loin d'être exhaustive. Chaque année, ils sont des dizaines de milliers en France à se voir ainsi jetés à la rue et ce le plus souvent à la fin de la trêve hivernale qui s'achève ce dimanche. Mathieu Laurent, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors parmi les raisons qui peuvent expliquer ces expulsions, on trouve bien sûr des impayés successifs, généralement d'ailleurs après la perte d'un emploi, mais pas seulement car de plus en plus de propriétaires sont tentés aujourd'hui de récupérer leurs biens, parfois au mépris de la loi, avec des conséquences qui peuvent être dramatiques pour les occupants les plus modestes. Et c'est ainsi que ce matin, Mathieu, dans les colonnes du journal Libération, un collectif regroupant la Fondation Abbé Pierre, des associations et des élus appelle à mieux encadrer les congés locatifs.
Congés frauduleux, car rappelons-le, un propriétaire peut donner congé à son locataire dans deux cas de figure. Quand il reprend son bien pour lui ou l'un de ses proches, et s'il veut le vendre, sans quoi le bail doit aller à son terme. Ces congés frauduleux sont incontestablement en augmentation. Les propriétaires visent de plus en plus les plateformes touristiques. 800 000 annonces répertoriées en 2023. Et c'est flagrant au Pays Basque, où les procédures traitées par les tribunaux sont 5 fois plus nombreuses que dans les 5 plus grandes villes françaises hors Paris. C'est la seule et maigre indication à la disposition des associations, dont Alda, qui défend les locataires du Pays Basque, son coprésident, Shebash Christie.
Beaucoup de congés sont délivrés et ne passent pas du tout par les tribunaux et les locataires s'en vont en silence, je dirais. Et une des revendications que nous portons est notamment que ces congés soient chiffrés et qu'il soit obligatoire de les déclarer pour qu'on puisse avoir une connaissance précise de ce phénomène.
Ce phénomène amplifié il y a peu par les Jeux Olympiques, toujours au mépris de la loi. Des propriétaires expulsent abusivement leurs locataires et vont jusqu'à ambitionner de multiplier par 5 le montant de leur loyer. Qu'advient-il de ces personnes jetées à la rue alors que l'offre en logements sociaux est très insuffisante? Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre.
Il faut vraiment prendre en compte les souffrances qu'il y a derrière. Vous savez, quand on regarde les personnes, par exemple, qui ont été expulsées de leur logement, 1 à 3 ans après, elles n'ont toujours pas un logement stable. Un tiers d'entre elles, de ces personnes qui ont pu être expulsées dans une étude que l'on a faite, nous montrent qu'elles n'ont pas pu continuer leur activité économique. Donc tout ça, c'est tout ça qu'il y a derrière.
Ça a beaucoup
à un moment où les coûts globaux, par exemple de l'alimentaire, de l'électricité, augmentent, ça devient très difficile de pouvoir payer son logement. Donc il faut aller au-devant des personnes, il faut les soutenir, il faut leur tendre la main et il faut faire appliquer la loi.
Et réguler les expulsions. Voilà ce que demande en urgence le collectif dont vous avez parlé, cher Thomas.
Merci Mathieu Laurent.
On ne peut pas dire que cela saute véritablement aux yeux en regardant son ticket de caisse. Et pourtant,
l'inflation a ralenti sur un an. Elle s'établit ce mois-ci à plus 2,3%. C'est ce qui ressort des données provisoires communiquées ce matin par l'INSEE qui invoque un ralentissement de la hausse des prix à la fois de l'alimentation, des services, de l'énergie et des produits manufacturés. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Alors il ne faudrait pas pour autant se réjouir trop vite puisque ce ralentissement de l'inflation devrait s'arrêter assez rapidement, en particulier, Marie, avec la suppression du plafonnement des prix de l'énergie et d'autant plus encore à l'approche des Jeux Olympiques.
Oui, c'est ce qu'anticipent en effet certains analystes sans pourtant autant tabler sur un retour de l'inflation comme ces dernières années. Sur les 6 prochains mois, l'inflation globale oscillerait entre 2 et 2,5%, moitié moins donc qu'en 2022 et 2023. Le vrai changement, là, c'est pour l'alimentation. Les prix ont augmenté d'1,7% en mars, c'est moitié moins qu'en février. C'est une bonne nouvelle pour le portefeuille des ménages. Le prix du caddie va cesser de grimper, mais attention, il ne va pas baisser, sauf pour les produits frais dont les prix diminuent réellement. Selon l'INSEE, les prix des produits frais ont chuté de 4% au mois de mars. Néanmoins, comme ces produits avaient vu leur prix bondir de 17% en 2023, on comprend que les prix vont rester bien au-delà de ce qu'ils étaient il y a deux ans. Rappelons qu'en 2023, l'inflation globale de l'alimentation a dépassé les 15%. Alors pour les produits manufacturés, les prix sont quasi stables. Ce sont plutôt les services qui continuent de tirer les chiffres à la hausse. En tout cas, le fait qu'on se rapproche des 2% d'inflation, qui est la cible visée par la Banque Centrale Européenne, confirme l'idée que la politique monétaire pourrait s'assouplir très prochainement, avec à la clé de potentiels effets positifs sur la croissance. Ce serait un scénario bienvenu pour les projections financières du gouvernement français. Or, ce scénario se précise d'autant plus que le ralentissement de l'inflation touche tous les pays de la zone euro, Estonie et Autriche mis à part. Plus aucun taux d'inflation n'est au-dessus des 4% en ce début d'année.
Merci Marie Vienneau. Après que depuis plusieurs jours, des dizaines de collèges et de lycées ont été la cible de menaces d'attentats envoyées le plus souvent via la messagerie des ENT, ces espaces numériques de travail qui servent de lien entre les enseignants, les élèves et les parents. Hier soir, la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, a finalement demandé la suspension de ces messageries par lesquelles passent les intrusions. Sauf que les logiciels ne sont pas les mêmes partout, qu'il existe beaucoup d'intermédiaires, que les responsabilités sont aujourd'hui diluées entre les collectivités territoriales, les départements pour les collèges, les régions pour les lycées, ce qui rend la riposte nécessairement compliquée. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Loïc Guézo, vice-président de l'association de promotion de bonnes pratiques en cybersécurité. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Peut-être pour commencer, pouvez-vous nous expliquer comment donc les auteurs de ces attaques s'y prennent pour mener leurs opérations ? On a tendance à parler de cyberattaques contre les ENT, les espaces numériques de travail. En réalité, ce sont les comptes individuels des élèves ou plus rarement des enseignants qui sont piratés.
Oui, absolument. Là, on parle d'attaque, mais c'est un terme un peu abusif. En fait, c'est un emploi détourné des fonctions standards de messagerie et de communication à grand volume de distribution qui a été utilisé pour envoyer des messages menaçants avec un fort impact. Vraisemblablement, on est à l'origine sur le détournement des comptes classiques d'étudiants ou de professeurs ou d'agents administratifs qui ont ensuite été utilisés pour lancer ces messages menaçants.
Comment ces détournements, ces usurpations d'identité en réalité sont-elles possibles ? Est-ce que cela passe par des logiciels malveillants qui aspirent en quelque sorte les informations de ceux qui les téléchargent ?
En fait, c'est des mécanismes qui sont assez connus maintenant, qu'on appelle l'hameçonnage ou le phishing en anglais historiquement. Donc en fait, vous allez recevoir un premier message d'attaque qui va aller à la pêche à l'information et qui va essayer qui va vous proposer pour par exemple réinitialiser une connexion de saisir votre login et votre mot de passe. Mais en fait, en parallèle, il va être copié et ensuite réutilisé par les attaquants pour se connecter en votre nom et donc, contourner votre identité et utiliser l'espace numérique de travail pour envoyer les messages.
Quelle faille cette déferlante donc de menaces qu'on a connue ces derniers jours vient-elle souligner ? Est-ce qu'il s'agit d'un manque de sécurité dans la conception même des ENT ? Et si oui, comment expliquer qu'un risque comme celui-ci n'a pas été davantage anticipé ?
Alors ça souligne plusieurs vulnérabilités dans l'usage de ces outils numériques. Le premier, c'est peut-être un manque de sensibilisation initiale des utilisateurs à ces risques de détournement de compte et d'usage malveillant possible ensuite. Donc là, on y répond par des efforts de sensibilisation et d'amélioration de la compréhension du risque sur l'usage de ces outils numériques. La difficulté, c'est qu'on s'adresse éventuellement à des jeunes adolescents, des jeunes adultes, donc qui n'ont pas les mêmes rapports à l'usage du numérique que tout le monde. Ensuite, ce que ça souligne, c'est qu'effectivement, manifestement, cette hétérogénéité de plateformes numériques ne permet pas au ministère d'avoir une politique de sécurité, je dirais plutôt technique, au bon niveau des bonnes pratiques, puisque là, manifestement, il y a eu possibilité d'envoyer de nombreux messages sans qu'il y ait de réaction des équipes techniques de supervision de ces messageries qui sont effectivement hétérogènes et décentralisées sous la responsabilité des régions, des départements, des établissements, etc., etc.
Tous ces messages qui ont été envoyés, même si bien sûr ils entraînent une surveillance accrue, ne recouvrent a priori pas de menaces concrètes. Ça veut dire quoi? Ce qui compte, c'est l'effet qu'ils produisent pour eux-mêmes?
Oh ben, ce qui compte manifestement, c'est l'effet produit lors de la réception. Faut imaginer que vous êtes un jeune étudiant scolaire. Vous ouvrez votre outil institutionnel dans un contexte, vous êtes chez vous, vous êtes dans votre chambre, et là, tout d'un coup, vous avez des images violentes, un message particulièrement percutant, dont l'effet est effectivement très fort dans l'immédiateté, dans l'intimité de la personne. Donc cet effet-là, il est atteint. Ensuite, le contexte international et la nature du message qui mentionne une possibilité d'attaque terroriste, évidemment, nécessite une réponse, une levée de doute. Et là, c'est tout le dispositif de sécurité qui se met en place et qui a été jusqu'à la fermeture de ces plateformes de messagerie temporairement.
Effectivement, la ministre a demandé la suspension des messageries de tous les ENT pour mieux sécuriser les espaces numériques et les logiciels de vie scolaire. De quelles adaptations parle-t-on ici ?
Je pense que la première chose, ça va déjà être de réouvrir progressivement les espaces de travail et les messageries après un renouvellement, voire un renforcement des mots de passe. Mais je pense qu'il va falloir également envisager des mesures techniques, peut-être par exemple la supervision plus en détail des contenus, des messages échangés sur cette messagerie, avec vraisemblablement des restrictions de type messages externes non validés qui seraient diffusés vers l'intérieur des ENT, et puis surtout limiter les possibilités de diffusion en cas de détournement d'un compte vers de grandes listes de destinataires. Aujourd'hui, dans une entreprise, un collaborateur ne peut pas s'adresser à des centaines ou des milliers de personnes comme ça, simplement en envoyant un message. C'est ce qui semble pourtant avoir été possible dans les ENT dont on parle aujourd'hui.
C'est bien noté. Merci Loïc Guézo, vice-président, je le rappelle, de l'association de promotion des bonnes pratiques en cybersécurité, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Un pôle audiovisuel public puissant et une holding Radio France France Télé avec une gouvernance unique, voilà le projet que la ministre de la Culture entend porter avant la fin de l'année.
Oui, Rachida Dati l'avait annoncé récemment lors de son audition par le Sénat. Une volonté, sinon une ambition, loin d'être partagée en revanche par 5 ex-ministres de la Culture, entendus eux hier par la commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des fréquences TNT. Aurore Richard, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Rima Abdulmalak, Roselyne Bachelot, Renaud Donne-Dieu de Vabre, Jacques Toubon et Fleur Pellerin, tous se sont dit opposés ou à tout le moins extrêmement réticents à ce projet de holding.
La députée Constance Le Grip interroge d'abord Rima Abdulmalak. Elle veut connaître son point de vue sur la réforme de la gouvernance de l'audiovisuel public. La réponse de la prédécesseur de Rachida Dati.
J'en étais arrivée à la conclusion que cette holding, préalable à une fusion ou pas, n'était pas indispensable, que des rapprochements étaient possibles par le bas, en quelque sorte, en faisant confiance aux équipes. Et donc, on imaginait comme ça un mode de coopération et de synergie, de rapprochement, qui ne nécessitait pas un grand mécano institutionnel.
Elle est confortée par Roselyne Bachelot, ministre de la Culture sous Emmanuel Macron. Le coût des économies de gestion suscitées par les holdings, dit-elle, il y a longtemps qu'on ne va plus me la faire, cette affaire-là. C'est là qu'intervient Quentin Bataillon, président de cette commission, lui qui a co-signé un texte dans la Tribune appelant à la création d'une structure commune qui pourrait s'appeler France Média.
Il faudra qu'on en discute, Madame la Ministre, parce que moi je suis très en faveur de la holding, mais je suis convaincu et je ne vais pas rouvrir le débat, mais cette demande de holding aujourd'hui, c'est la demande de 3 patrons des 4 entités publiques concernées. C'est aussi la demande d'une majorité à l'Assemblée et d'une majorité au Sénat. Donc une volonté parlementaire très très forte.
Malgré tout, pour Jacques Toubon, rue de Valois, à partir de 1993, l'Assemblée ne rendrait pas service au pays si elle décidait de mettre le doigt dans un débat, selon lui, au mieux inopérant et plus probablement détestable.
Merci Aurore Richard.
Vous écoutez France Culture, il est 12h44 et c'est la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Après que le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, c'était lundi dernier, après que la Cour internationale de justice a ordonné à l'État hébreu hébreu d'assurer une aide humanitaire de toute urgence dans l'enclave assiégée, c'était hier. L'offensive de l'armée israélienne se poursuit, en particulier à Rafah, présentée comme le dernier grand bastion du Hamas et où s'entassent 1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants affamés. Et puis parce que les affrontements de ces 5 derniers mois ont également exacerbé les tensions régionales, ce matin au moins 42 soldats syriens et combattants du Hezbollah libanais ont été tués dans une attaque israélienne qui a visé la région d'Alep. La veille déjà, une frappe avait visé un immeuble résidentiel dans la banlieue de Damas, cette fois-ci faisant 2 morts. Les précisions de Noé Pignède.
Cette nuit, vers 2h du matin, l'aviation israélienne a visé des bases militaires de l'armée de Bachar el-Assad à proximité de l'aéroport d'Alep. Des positions du Hezbollah, alliés du Hamas, ont également été ciblées. Ce n'est pas une première, Israël frappe régulièrement cette région depuis des années, mais le bilan de cette nuit est historiquement lourd pour le régime syrien, avec des dizaines de morts. En visant cette zone, Israël a un objectif, affaiblir l'Iran et ses alliés. Pour l'État hébreu, c'est un enjeu sécuritaire très important, puisqu'il partage une frontière commune avec la Syrie, qui est progressivement devenue une base arrière du régime des Mollahs. Depuis le 7 octobre, Israël intensifie ses raids aériens sur la zone, avec également des assassinats ciblés de gardiens de la révolution iranien. L'armée israélienne frappe de plus en plus fort la Syrie, avec le risque latent, mais toujours très présent, d'un embrasement régional et d'une guerre d'ampleur contre les alliés de l'Iran en Syrie, mais aussi au Liban voisin, où les affrontements entre Israël et le Hezbollah se poursuivent.
Je précise que ce matin, l'armée israélienne dit avoir éliminé un chef de l'unité des missiles du Hezbollah au Liban.
Toute la nuit, les forces de l'envahisseur russe ont pilonné l'Ukraine.
À moins de 99 drones et missiles ont été tirés. Voilà plusieurs semaines déjà que Moscou intensifie ses frappes aériennes, tout particulièrement contre les infrastructures énergétiques de son voisin. Au total, 10 régions ont été visées la nuit dernière et 6 personnes ont été blessées. Bien déterminé à décrire sans phare un pays refaçonné justement par la guerre en Ukraine, Evan Gershkovitch, 32 ans, s'était bâti une réputation d'intrépide reporter tout terrain avant d'être arrêté en Russie, accusé d'espionnage, sans jamais d'ailleurs que le Kremlin n'apporte publiquement d'éléments de preuve. Voilà un an, jour pour jour, que le correspondant du Wall Street Journal a été placé derrière des barreaux dans l'attente d'un possible procès. Sylvain Tronchet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant de France Culture à Moscou, cette semaine, la justice russe a de nouveau prolongé le placement en détention provisoire du journaliste américain jusqu'au 30 juin.
Et ces audiences de prolongation qui rythment la détention d'Evan Gershkovitch ont au moins un avantage, c'est qu'elles permettent de voir le journaliste américain de temps en temps dans son box du tribunal de Lefortovo, toujours souriant, le moral apparemment bon malgré les incertitudes autour de son sort. Mais elles sont également, elles illustrent également le fonctionnement de la machine judiciaire russe qui, un an après l'arrestation du journaliste américain, n'a toujours pas dit ce qu'elle lui reprochait précisément, sinon cette vague accusation d'espionnage. Ce qu'Evan Gershkovitch, ses proches, son journal contestent formellement. Evan Gershkovitch connaît extrêmement bien la Russie, d'où venaient ses parents, émigrés aux États-Unis, où il est né à 32 ans. Il est déjà considéré comme l'un des correspondants les plus expérimentés, les plus pointus dans le pays. Et ce qui est frappant, c'est que Vladimir Poutine, lorsqu'il a évoqué son sort, par deux fois n'a jamais dit qu'il attendait les résultats de l'enquête ou quelque chose du genre. Non, il a toujours clairement expliqué que le citoyen américain pouvait être échangé. Il a même dit contre qui récemment, un agent du FSB détenu en Allemagne accusé d'assassinat. Le Kremlin a d'ailleurs confirmé que des discussions étaient en cours, mais elles restent pour l'instant aussi secrètes que la procédure d'accusation qui vise le journaliste.
Alors bien évidemment, le cas d'Evan Gershkovitch est une illustration parmi d'autres de cette répression qui bat son plein pas plus tard que cette semaine, Sylvain. Plusieurs journalistes ont encore été interpellés, parfois même condamnés.
Oui, rien que sur le mois de mars, même plusieurs journalistes russes, parmi les derniers journalistes indépendants en Russie, ont été arrêtés, condamnés à des peines de prison parfois lourdes. 7 ans pour Ivan Romanov, un reporter qui avait dénoncé le massacre de Boutcha. 3 ans pour le documentariste Vsevolod Korolyov, pour les mêmes raisons. La reporter Antonina Favorskaya, spécialiste d'Alexei Navalny, elle a été arrêtée alors qu'elle déposait des fleurs sur sa tombe, condamnée à 10 jours de prison pour rébellion au départ. Elle est maintenant menacée de poursuites pour extrémisme, 10 ans de prison encourue.
Merci Sylvain Tronchet en direct de Moscou. Comme une nouvelle preuve du soutien direct de Vladimir Poutine à son homologue, l'autocrate Kim Jong-un, hier, la Russie a imposé à l'ONU la fin de la surveillance des sanctions contre la Corée du Nord. Plus exactement, Moscou a réussi, grâce à son veto, à bloquer le renouvellement du mandat des experts chargés de surveiller l'application des sanctions contre Pyongyang. reconquérir le joyau de la nation qui l'a fait roi. Telle est l'obsession de Recep Tayyip Erdogan, qui a donné pour mission à son parti d'arracher Istanbul à l'opposition. Les Turcs sont appelés aux urnes dimanche pour élire leur maire, un scrutin dont le président a par ailleurs annoncé qu'il serait le dernier organisé sous son autorité. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi gris et pluvieux sur la majeure partie du territoire, à l'exception de Rhône-Alpes, la région PACA, la Corse et l'Occitanie, où le ciel sera sec et lumineux. Quant aux températures, elles afficheront entre 12 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Waïba Kedash. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Adrien Toffolet pour le prochain journal de la rédaction.